couleur locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. J'accueille aujourd'hui à notre micro Stéphanie Corso, bonjour.
Bonjour.
Et Aude Michaud, bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes archivistes aux archives départementales du Tarn pour ce nouveau rendez-vous mensuel d'histoire locale. Alors, dans la précédente émission, vous aviez évoqué la vie de Joseph Maraval, qui est fondateur de l'industrie de la chapellerie à Albi au XIXe siècle. Et aujourd'hui, vous allez nous dresser plus précisément son portrait, Stéphanie Corso.
Oui, tout à fait. La dernière émission, nous avions plutôt mis l'accent sur la prospérité et l'activité de son industrie, le développement de son industrie. Et là, en fait, nous souhaiterions vraiment mettre l'accent sur ses convictions personnelles. Donc, pour ce faire, revenons à ce banquet sur lequel nous étions quittés la dernière fois. Ce banquet organisé en novembre 1878, à son retour de l'Exposition universelle de Paris. Nous l'avions déjà évoqué la dernière fois et souligné les nombreux hommages rendus par tous, ouvriers, élus et anonymes, à cet homme, donc Joseph Maraval. Et dans l'introduction de son article daté du 10 novembre 1878, relatant cet événement, le républicain du Tarn ne masque pas sa sympathie pour l'homme et ne manque pas d'emphase pour le qualifier.
Nous sommes heureux aujourd'hui de reproduire les nouveaux discours prononcés à cette fraternelle réunion. Nous félicitons la population de cette patriotique cité d'avoir su prouver sa sympathie et sa reconnaissance à un homme qui, après s'être dévoué à la cause ouvrière, a pu, par son amour pour le travail, l'ordre et la liberté, conquérir la récompense bien méritée qui est venue couronner les efforts de celui qui est surnommé à si juste titre le patriarche de la démocratie.
Alors, le républicain du Tarn le qualifie de patriarche de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui lui a valu ce surnom ?
Eh bien, écoutons la lecture de la lettre adressée par Frédéric Thomas, ancien préfet du Tarn et fervent républicain qui n'a pu assister à la fête.
Paris, ce vendredi 1er novembre 1878. Mon bien cher ami, autant que vous, et plus que vous peut-être, j'aurais désiré pouvoir assister à votre fête. Je me serais donné la joie de dire bien haut que le gouvernement de la République, en décorant un homme, avait décoré une ville, notre patriotique cité albigeoise, que j'ai eu l'honneur d'administrer avec vous, dans des temps difficiles, au milieu des affreux désastres accumulés par l'Empire. Je vous ai vu à l'œuvre, dans ces moments terribles, et je suis témoin que votre énergie et votre civisme ne désespérèrent jamais du salut de la patrie. La guerre finie, vous comprîtes que nous devions immédiatement prendre notre revanche par la paix et par le travail. Et loin de vous reposer dans un loisir certes bien acquis, vous reprîtes la tête de cette phalange de vaillants ouvriers, vos collaborateurs, avec lesquels vous aviez fondé cette féconde industrie qui a procuré de la gloire à quelques-uns et du pain à tous. Tant d'efforts méritaient leur récompense. Vous l'avez reçue dans cette croix d'honneur, venant compléter et consacrer deux médailles d'or gagnées dans deux expositions universelles. La croix d'honneur, la bien nommée, quand elle décore notre poitrine. Oui, la bien nommée et la bien méritée aussi. Vous pouvez la porter fièrement, car personne ne vous l'enviera, parce que tout le monde vous l'eût discerné. Soyez heureux d'avoir su prendre le bon lot. Par toute une existence d'honnêteté et de popularité, vous avez expérimenté cette célèbre parole d'un grand philosophe, « L'amour du peuple vaut mieux que la faveur des rois ». Et quant à nous qui glorifions notre triomphe, nous n'oublierons jamais que ce salutaire exemple du travail ennobli et du travail couronné, c'est la République qui vous le donne. Je vous embrasse de bon cœur, Frédéric Thomas.
Donc Frédéric Thomas, on précise, c'était l'ancien préfet du Tarn en 1878.
Oui, même plus avant, puisque là, à ce moment-là, donc, il est écrit de Paris. Il a été
d'accord. Ah, d'accord.
Voilà. Oui, il a eu d'autres fonctions après.
Très bien, oui.
Voilà. Et donc en fait, voilà, ce qu'il souligne à ce moment-là, on le voit d'ailleurs, c'est les engagements pour la démocratie et les idées donc républicaines de Joseph Maraval. On peut rappeler que Joseph Maraval est né quelques mois après la Restauration, qui marque donc à ce moment-là la réinstallation de Louis XVIII sur le trône de France, le retour de la monarchie en France et qu'il a connu donc trois rois. Louis XVIII de 1815 à 1824, Charles X de 1824 à 1830 et puis enfin Louis-Philippe de 1830 à 1848. Et donc il est fortement empreint des idées révolutionnaires. Il est d'ailleurs, Joseph Maraval, il sera d'ailleurs initié en 1841 à la Parfaite Amitié, une loge maçonnique marquée dès ses débuts par son esprit révolutionnaire. Aussi nul doute que comme la majeure partie de la population, Joseph Maraval se soit réjoui de l'avènement de la Deuxième République en février 1848. Cette République généreuse, qui se veut fraternelle et sociale et qui a fait naître beaucoup d'espoir. En pleine crise économique, des ateliers nationaux sont d'ailleurs créés pour permettre aux chômeurs de retrouver un revenu. Mais l'enthousiasme est de courte durée. Dès le mois d'avril 1848, l'élection de la nouvelle Assemblée constituante donne la majorité aux conservateurs. Et avec la fermeture des ateliers nationaux, les manifestations d'ouvriers se multiplient à Paris et dans les grandes villes. Et avec elles, la crainte de l'anarchie s'installe dans le pays. En décembre 1848, les élections présidentielles portent à la tête du pays un homme qui incarne l'ordre, Louis-Napoléon Bonaparte.
Alors, à ce moment-là, qu'en est-il dans le Tarn ?
Alors, en mai 1849, la liste républicaine l'emporte dans le Tarn à l'occasion de l'élection de l'Assemblée nationale. Mais à l'échelon national, donc, c'est toujours la majorité conservatrice qui l'emporte. Au lendemain de la protestation révolutionnaire durement réprimée qui s'est déroulée le 13 juin à Paris, les esprits s'échauffent à Albi. Le commissaire de police, faisant preuve d'autoritarisme, arrête début juillet quelques jeunes provocateurs. Joseph Maraval, alors conseiller municipal, essaye de défendre leur cause auprès du préfet. Sans succès. Un rassemblement a lieu alors, pour réclamer leur libération. Mais la réponse est sans appel. Les troupes sont envoyées contre les manifestants. Et 60 à 80 d'entre eux sont blessés et 23 sont arrêtés. Le registre d'écrou de la maison d'arrêt d'Albi nous renseigne sur les inculpés.
Alors, dans ces inculpés, il y a Joseph Maraval.
Écroué, le nommé Maraval François-Joseph, en vertu d'un mandat de dépôt de Monsieur le juge d'instruction de l'arrondissement d'Albi, en date du 10 juillet 1849, étant prévenu de rébellion armée et d'attroupement de plus de 20 personnes et usurpation de fonctions.
Poursuivant la lecture du registre d'écrou, on y apprend qu'il est transféré à l'hospice début octobre pour cause de maladie. Puis apparaît la mention suivante.
Décroué, le nommé Maraval François-Joseph, par ordre de Monsieur le procureur de la République, pour le tribunal correctionnel d'Albi, pour être conduit dans la maison de justice de Montauban, en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 1849, qui le renvoie devant les assises du Tarn-et-Garonne. Comme accusé de rébellion armée, il a fait sa sortie de l'hospice le 24 à 5h du matin, Albi, le 23 octobre 1849.
Donc il va être transféré.
Oui, et il s'avère que ce transfert s'est déroulé de manière quelque peu inattendue et que l'on dispose de fait de quelques traces écrites dans les archives de la préfecture. Il est d'ailleurs difficile de résister à la lecture de l'enquête du sous-préfet sur les faits qui se sont déroulés lors du transfert des accusés d'Albi à Montauban.
Le 27 octobre 1849. Par notre dépêche d'hier, 26, vous m'aviez invité à me transporter immédiatement à Cordes afin d'y faire une enquête sur les faits dont a été l'occasion le passage des accusés, transférés d'Albi à Montauban, pour y paraître aux assises où s'ouvriront prochainement les débats sur les événements du 8 juillet. Vers 8h du matin, la brigade de gendarmerie d'Albi arriva, amenant les accusés au nombre de 8, lesquels marchaient librement, accompagnés de 150 personnes environ, qui avaient voulu leur faire la conduite depuis Albi. Une halte se fit à la baraque. À cet endroit, les adieux s'échangèrent, sans démonstration hostile, à ce qu'il paraît. Une grande partie de l'escorte se détacha et revint avec la brigade à Albi. 30 personnes environ demeurèrent et accompagnèrent jusqu'à Cordes les 8 accusés qui étaient les sieurs Rodière, Lamy, Courduriès, Tartier, Rénal, Vivant, Passemart et Maraval.
Ils arrivèrent à Cordes à midi.
À la jonction de la route d'Albi, 200 personnes environ de Cordes vinrent recevoir les accusés. Une première difficulté se présenta dès lors. Il y a lieu de la faire connaître et d'en tenir compte pour l'appréciation des événements ultérieurs. Vous connaissez, monsieur le préfet, la disposition topographique de Cordes. L'ancienne prison de Cordes est située précisément à l'extrême sommet de la ville, près de la halle au blé. Elle est dans un tel état d'insalubrité et d'exiguïté, ne pouvant contenir que 3 prisonniers, que le séjour en a été administrativement interdit par l'un de vos prédécesseurs.
Il semble que la municipalité n'ait pas été informée du passage des prisonniers.
Alors nous allons peut-être faire une petite pause musicale pour laisser le suspense et savoir qu'est-ce qui s'est passé ensuite à Cordes. Alors nous allons écouter Fleurs de liberté.
Jaco, faut partir. Hay trop d'enfants à nourrir. Et faut un antéluga, ni la plane, hey là, hey là. Jacou fagelo saqueto, s'en per les maisons, ni la grammastida, hey là. Comment va à travailler? A celesti u venghe l'autunno, fo in dumia fo governa, lume streprene già mai tuna, fo ma cassens Rebecca, Rebecca. Giacu, giacu, vies la neo, li dighe mesre raffè, la flu, dei valle. Toujours travaille, tu te tais. Passe l'hiver, vengue la prima. Faut s'amener, faut pouda. La machota cambia sa crida. Semble que fleurissent les améliers, améliers.
Vous êtes sur les ondes de Radio Albigès dans une émission d'histoire locale. Aude Michaud et Stéphanie Corso sont mes invités aujourd'hui et évoquent la personnalité de Joseph Maraval qui a été le fondateur de la chapellerie à Albi au XIXe siècle. Alors, nous continuons. Aude Michaud, vous allez nous raconter donc ce qu'il s'est passé quand les prisonniers sont arrivés à Cordes.
Voilà. Donc, arrivés à Cordes, au pied de la ville, le brigadier de gendarmerie vit des inconvénients à faire gravir aux accusés les rampes montueuses qui conduisaient au sommet et à grossir l'affluence déjà importante de la population qui s'était transportée à la rencontre des prisonniers. On ne peut méconnaître que cette seconde appréhension se serait réalisée, la ville de Cordes conservant, pendant le jour, toute sa population qui est en grande partie occupée au métier de tissage et qui se rend en très petit nombre aux travaux de la campagne. Il faut ajouter qu'il n'y avait point de lit de camp dans la prison malsaine de Cordes et que les accusés avaient fait 24 km à pied et qu'ils devaient faire le lendemain un trajet plus long encore.
Par facilité, mais aussi pour éviter les manifestations de la population,
le brigadier Vasseur prit le parti de faire arrêter les prisonniers au faubourg même de la bouteillerie, d'où l'on suit directement en effet la route conduisant à Saint-Antonin. Les accusés entrèrent dans l'hôtel tenu par Journès. L'idée d'un repas pris en commun fut dès lors mise en avant. L'improviste dans lequel se trouva surpris le maître d'hôtel donna à supposer qu'il ne fut guère prévenu que vers midi.
S'ensuivent alors de nombreux va-et-vient.
Dans la journée, des habitants de Cordes vinrent échanger avec les accusés des témoignages de sympathie. Ceux-ci restèrent dans une des salles de l'hôtel avec leurs amis du dehors sous la surveillance de 3 gendarmes. Le gendarme Viguier, indisposé, reçut la permission de demeurer à la caserne. Le brigadier Vasseur s'y rendit pour faire lui-même, dit-il, ses écritures.
C'est alors qu'un habitant de Cordes, pas tout à fait comme les autres, vient se joindre au repas.
À 3h30, plusieurs tables réunies étaient dressées. Monsieur Serré, adjoint au maire de Cordes, qui avait visité comme médecin ses malades pendant la journée, fut averti de l'arrivée des accusés, et notamment du sieur Maraval, avec lequel il avait entretenu quelques bons rapports à Albi. Il crut devoir, dit-il, porter à cet accusé l'expression de ses sentiments d'affection et de sympathie pour sa position. Il fut invité par l'accusé Maraval à s'asseoir auprès de lui et prit place à table. Je me borne quant à présent à rapporter les faits.
Et comme si cela ne suffisait pas.
Vers les 4 heures, le repas était commencé déjà lorsque revint le brigadier Vasseur pour reprendre sa surveillance. Monsieur Serré commit l'inexcusable inconséquence qu'il avoue loyalement de provoquer le brigadier à prendre part au repas à côté de lui. Les 3 gendarmes suivirent le fatal exemple que leur fut donné par leur chef et prennent place également au milieu des convives. Le gendarme Viguier, indisposé, continua à demeurer absent. Le nombre des convives s'éleva à 70, non pas dès le principe, mais par l'entrée successive de personnes venant du dehors. Ce nombre de 70 a été compté par le brigadier et est reconnu par M. Serré.
Les conditions dans lesquelles se déroule le repas feraient presque oublier qu'il s'agit d'un transfert de prisonniers.
Le repas dura 2 heures environ. Il se passa, à ce qu'il paraît, avec un certain ordre à la fin. Des tosses furent portées aux accusés. À leur acquittement futur, des chants suivirent. Aucun de ces toasts, aucun de ces chants ne fut-il en opposition avec le respect dû à la justice et à la société? Monsieur Serré et le brigadier, les seuls des convives que j'ai entendus, affirment que rien de semblable ne se passa. Après le repas, vers 6h30, une partie des habitants d'Albi qui avaient suivi les accusés jusqu'à Cordes s'en retourna à Albi. Une autre partie des convives et de la population demeurée en dehors de l'hôtel remonta en chantant dans la ville où elle habite.
Et alors, comment s'est déroulée la nuit?
Eh bien, la nuit, semble-t-il, se déroula dans le calme. Mais le lendemain, 25 octobre, la foule était de nouveau au rendez-vous.
À 6h du matin, ils sont partis de Cordes sous l'escorte de la brigade, accompagnés par 30 personnes environ. En passant aux cabanes, à 1 kilomètre de Cordes, une collation leur fut offerte. 100 individus, peut-être, se sont joints à l'escorte de Cordes et ont fait la conduite jusqu'à 3 kilomètres à Venrac, où l'on s'est séparé définitivement. Là ont eu lieu les derniers adieux. À 10h du matin, les accusés ont été remis à la brigade de gendarmerie de Saint-Antonin, qui était venue pour les recevoir. Ils étaient seuls à ce moment. Des renseignements sans précision ne me permettaient pas de suivre leurs traces au-delà.
C'est quand même étonnant, hein, tout ce cortège de prisonniers escortés par la population.
C'est pour ça que ce texte est encore, on en a extrait les parties qui nous paraissaient en effet les plus intéressantes, mais c'est un texte qui est assez long et ce rapport est assez... assez étonnant par son contenu. Donc, on le rappelle, hein, il s'agit bien d'un écrit, du rapport du sous-préfet au préfet, hein, tout ce qui a été présenté là. Et donc, finalement, dans la suite du texte, eh bien, il y a la condamnation de l'attitude un peu trop, évidemment, sympathique de M. Serré, l'adjoint au maire, qui, du coup, le sous-préfet demande la révocation de ce dernier par manquement de réserve vis-à-vis d'accusés politiques. Les gendarmes qui ont pris part au repas seront eux aussi réprimandés. Le jugement en assises, finalement, qui se déroula à Montauban en janvier 1850, se solde par un acquittement. Et c'est triomphalement que les inculpés feront leur retour à Albi. Mais Joseph Maraval, lui, n'en reste pas là. Et donc, le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte fait craindre des remous dans le département. Le rapport du procureur de la République d'Albi au procureur général, daté du 6 décembre 1851, vient en témoigner. Et la conclusion de son rapport souligne la surveillance étroite qui pèse sur les démocrates socialistes, appelés plus communément à l'époque les Rouges.
En résumé, avec les plus détestables intentions, le Parti Rouge, guidé par les mêmes meneurs qu'en 1848, les Tartiers, Montaudry, Jean, Maraval, Lamy, etc., est prêt et organisé pour une collision avec l'autorité. Il cherche le moment, mais l'énergie du gouvernement et le châtiment terrible et prompt infligé aux rebelles attiédissent sa colère et calment son impatience. Il voudrait bien faire et surtout faire une levée de boucliers, mais il rencontre partout des mesures préventives et des dispositions répressives. Il n'ose pas entrer en ligne, mais il finirait sans doute par se commettre si la victoire de l'ordre à Paris et à Toulouse était compromise.
Si le plébiscite du 21 décembre 1851 permet à Louis-Napoléon Bonaparte, devenu ensuite Napoléon III, de ratifier sa prise de pouvoir, il montre aussi localement le rejet de la dictature par les albigeois. En effet, un tiers s'abstenant de voter et un tiers s'exprimant pour le non aux réformes annoncées.
Et alors, quelle est l'attitude là de Joseph Maraval ?
Eh bien, Joseph Maraval exprimera publiquement sa désaffection à l'égard de ce nouvel empire. En effet, élu au conseil municipal lors des élections du 11 septembre 1852, il refuse de prêter serment au nouveau régime. Les conséquences ne sont pas à attendre. Il est déclaré démissionnaire par le préfet du Tarn pour refus de serment. Joseph Maraval poursuit son combat et avec d'autres républicains, il fonde le journal Le Patriote Albigeois. Le premier numéro paraît le 9 octobre 1869, à quelques jours même du scrutin municipal qui donne la victoire du camp républicain dont il fait partie. L'article de Lejeune paru en une du premier numéro et intitulé « Liberté, égalité, fraternité » donne le ton.
L'Albigeois fut toujours un foyer de libéralisme, un centre de résistance à l'oppression, qu'elle vienne du trône ou de l'autel. Par son glorieux passé, par son indépendance actuelle, par sa situation enfin de chef-lieu intellectuel, artistique autant qu'administratif du département, Albi méritait qu'on songeât à créer chez lui un organe sincère, courageux, convaincu de l'opinion démocratique. On connaît notre idéal, trois mots le résument. Ces trois mots, nous les plaçons au frontispice de notre journal pour qu'il y brille comme un phare. Développer l'admirable synthèse dont nos pères de 1792 trouvèrent la sublime expression sera notre premier soin.
Incontestablement, l'héritage révolutionnaire est revendiqué. Et après l'abdication de Napoléon III, le journal célèbre avec force la proclamation de la Troisième République et adopte pour son supplément du 4 septembre 1870 et les numéros suivants le calendrier républicain. Donc le supplément sera daté du 16 Fructidor en 78. La joie des démocrates est de courte durée, car dès les législatives de février 1871, les monarchistes remportent l'Assemblée. Tant au niveau national que local, il faut attendre 1876 pour que les républicains reviennent en force et restent durablement majoritaires. 1876 est aussi l'année où Joseph Maraval accède à la fonction de maire. Plus exactement, comme le veut la législation à ce moment-là, il est nommé par le préfet en novembre 1875. Sa nomination sans réelle concertation avec les élus locaux crée quelques remous. Et finalement, c'est Gabriel Soulages, autre républicain albigeois, qui est nommé en janvier 1877 et qui exercera donc la fonction durant les 11 années suivantes.
Et alors donc, comment se finit la vie de Joseph Maraval ?
Eh bien, né d'une famille modeste de chapeliers, l'engagement de Joseph Maraval pour son entreprise et pour sa ville lui a amené prospérité et notoriété, et il a été célébré jusqu'au dernier jour.
La démocratie albigeoise vient de perdre un de ses membres les plus dévoués. Monsieur Joseph Maraval, manufacturier, membre de la Chambre de commerce, ancien maire d'Albi, chevalier de la Légion d'honneur, est mort aujourd'hui 5 septembre 1890, à l'âge de 75 ans, après une longue et douloureuse maladie. Joseph Maraval s'était retiré de la vie politique depuis quelques années. La République était définitivement assise, et ceux qui, comme lui, avaient lutté pour son établissement pouvaient légitimement aspirer à un repos bien mérité, après tant de combats énergiquement soutenus.
Mais jusqu'à la fin, cet acteur du républicanisme albigeois s'est voulu un homme modeste.
Samedi soir, à 2 h, une foule nombreuse et sympathique accompagnait à leur dernière demeure les restes mortels du regretté Joseph Maraval. Suivant les intentions du défunt, les obsèques ont été les plus simples, et c'est dans le corbillard des pauvres que Joseph Maraval a été porté au champ du repos. Conformément à ses dernières dispositions, aucun discours n'a été prononcé sur sa tombe.
Et où se trouve sa tombe? Est-ce qu'on peut encore la voir aujourd'hui?
Oui, au cimetière de la Madeleine, on peut toujours voir la tombe de Joseph Maraval.
Alors, quelles sont les sources que vous avez consultées pour pouvoir nous raconter cette histoire?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est on s'est intéressé à ce personnage sur la demande d'une institutrice d'une école de la Madeleine, l'école Lucie Aubrac, qui souhaitait travailler sur l'histoire d'une personne, montrer à ses élèves, justement, que les archives, c'est aussi, et l'histoire, c'est aussi partir de ça.
De documents.
De documents, puis surtout...
Et de documents officiels, quoi.
De documents officiels, mais au départ, c'était pour faire sentir à ses élèves cette notion d'histoire. Et donc, ce qui était intéressant avec Joseph Maraval, c'est qu'en effet, on a pu trouver dans des sources très variées. Donc, on est allé puiser, on n'a pas trop évoqué sur la partie familiale, justement, mais avec les élèves, c'est une partie de l'atelier autour de la généalogie de Joseph Maraval. Donc, on puise dans l'état civil, mais on l'a vu aussi, on a puisé dans les archives judiciaires, les archives de la préfecture. Donc, le cadastre aussi, la dernière fois, on parlait de ses biens, ses propriétés. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à dessiner comme ça, par petites touches, et ce qui était au départ, ça c'est venu un peu au fur et à mesure de notre travail sur les sources et sur les documents d'archives, de voir justement se dessiner à partir de ces petits actes, le fait qu'il refuse de prêter le serment, le fait qu'il ait été écroué alors qu'il était quand même impliqué dans la vie politique déjà. Donc, de comprendre à partir de là et de voir se dessiner avec, en mettant en perspective le contexte historique plus général, de voir se dessiner cet homme et ses engagements personnels. Et c'est ce qui est intéressant et on espère, donc là on a expérimenté cette semaine une première partie de l'atelier, plus sur les biens et sur ses propriétés. Donc la deuxième partie sera plus sur ces petits actes-là du quotidien. Et donc on espère pouvoir faire toucher ça du doigt à ces élèves que nous allons recevoir.
Et ce sont des élèves de quel niveau, de quel
âge ? CM1. Le CM1. Mais c'est un atelier, alors vous voyez quand même sur le contexte politique du 19e, il est assez complexe, donc ça évidemment on ne pourra pas trop le développer avec les élèves de CM1. Donc par contre on espère bien pouvoir le travailler avec des... C'est un atelier qu'on pourra facilement adapter pour des élèves de collège.
De collège,
voilà,
oui.
Et de 4e en particulier qui ont le 19e inscrit au programme.
Très bien. Voilà. Oui. Bien, ben merci Aude Michaud de nous avoir lu tous ces textes d'archives. Merci Stéphanie Corso.
Merci à vous.
Pour nous avoir fait découvrir ce personnage albigeois. Je rappelle donc que vous êtes archiviste aux archives départementales du Tarn. Merci à Maï qui était à la technique. Au revoir à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès. Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.